O negócio ficou diferente.
Jorjão, vai, garoto!
Fala a verdade. Você tá na bola.
Não. Poderia servir de você.
Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Sophie Abel présentera son tout premier album, Anxious Avoidant, le 25 mai au mythique Foufoune Électrique. S'inspirant des sons colorés et incomparables du début des années 2000, Anxious Avoidant est parsemé de ballades mielleuses et d'hymnes pop-punk. Rendez-vous le 25 mai au Foufoune Électrique. Billets en vente sur lepointdevente.com.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, et oui, et oui, 210e épisode des Amazones. Je m'excuse d'avance, j'ai une petite voix rocailleuse, mais ça fit beaucoup avec le thème. Et j'aurai peut-être la chance de vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais introduire la personne avec qui je vais partager la prochaine heure. Marika, comment ça va? Bon, ben c'était pas le bon micro. En fait, reparle donc.
Hello.
Non. Vas-y.
Hello.
OK.
Oh, wow.
Et qui aurait cru que aussi loin que tu sois placé, tu avais le micro 2? Mm. Qui aurait cru? Non, c'est ça. Ben, je suis contente que tu sois là.
Je suis contente d'être là et je vais bien. Toi?
Ben, moi, ça va. J'ai la voix recueilleuse. J'aimerais commencer par saluer Amélie qui n'est pas avec nous parce que elle a besoin de se reposer aujourd'hui. Donc, on te souhaite un bon repos et un prompt rétablissement. Donc, on salue Amélie qui est avec nous en pensée et qui voulait parler de l'émission. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de discuter de nos opinions. Toi puis moi, on en a parlé un peu avant de rentrer en onde, mais je ne sais pas si Amélie avait voulu nous dire que c'était bon ou c'était pas bon. Je te dirais bien de me texter pour me le dire, pour que je puisse donner tes commentaires, mais mon téléphone est en train de plugger l'autre côté du mur de choc, là, fait que whatever. Mais merci, Amélie. T'es avec nous en pensée, Amélie. Fait que ça va bien?
Oui, ça va bien.
La fin de l'année?
Ouais, dernière semaine d'enseignement. En fait, il me reste 2 jours d'enseignement et ces 2 jours seront consacrés à écouter des films en classe. Donc, après, ce sont les examens. Fait que je suis presque en vacances si on oblitère la pile de correction.
OK. Mais la présence en classe, ça achève.
Ouais. C'est le corps est là, mais j'ai pas besoin de beaucoup cogiter.
T'as combien de temps pour corriger?
J'ai jusqu'au 27 juin, mais mon objectif, c'est de finir pour le 16.
Oh my God! OK. Fait que c'est pas toi qui corrige les examens du ministère?
J'ai pas d'examen du ministère en 3. Seulement en 2 puis en 5.
Ah!
Mm-hmm.
Fait que toi, t'as plus d'examen après.
Oui, oui. Le 10, en fait, vendredi, on a un examen de lecture qu'on fait dans un blocage, c'est-à-dire que les cours sont levés, mais les élèves doivent se présenter à des 3 heures, 2 heures d'examen d'affilée. Fait que là, ils sont en lecture. Fait qu'en 2 jours, la lecture, je corrige 3 groupes. Là. Fait que 2 jours complets, c'est fini.
Fait que ça achève.
Ouais.
Ah, ben, t'es chanceuse. Un jour, j'aurai des vacances, Marika. Un jour. Pas cette année, mais peut-être l'année prochaine.
Je te le souhaite, c'est nécessaire.
Ben écoute, ça se peut. Le concept m'intéresse.
Mm-hmm,
j'en entends beaucoup parler. J'en ai jamais eu, parce que nos situations de travail sont précaires. Mais un jour, j'aurai des vacances. Mais c'est pas vrai. J'ai eu des vacances de Noël l'année passée. J'ai capoté, j'ai eu 2 semaines.
Quand même,
j'ai pas mis à COVID à la fin de mes vacances. Fait que j'ai comme une semaine de télétravail / maladie qui a suivi. Fait que c'était comme ça comptait pas vraiment, là. Mais bon, bref. Un jour, j'aurai un vrai 2 semaines de vacances, là.
Mm-hmm.
Peut-être l'année prochaine. On croise les doigts. Ben, c'est ça. Moi, j'étais en GN en fin de semaine.
Mm.
Puis, je me suis fait caster pour faire un bonhomme qui devait chanter bien, mais qui se faisait maudire et qui chantait après, qui se faisait casser la voix puis qui grognait. Mm-hmm. Puis, fait que j'ai grogné. Puis, il fallait que je me fasse exorciser. Fait que j'ai grogné pendant que je me faisais exorciser en criant pendant une demi-heure à peu près, en me débattant contre le plancher. Ils m'ont rentré la face dans le plancher de bois, puis j'ai des bleus pas mal. Là. Mais c'est ça, fait que...
Ça donne le goût?
Ben c'était bien le fun. C'était vraiment nice, là. Je veux dire, on m'a dit que la scène était nice à voir, là, mais c'est ça, là. Fait que hier, j'avais presque... pas de voix, puis là, ça commence à revenir, mais c'est ça, là, on le sent, le petit recueillement.
Je me rappelle que t'en avais parlé, puis j'avais oublié, puis ça m'est pas revenu quand tu me parlais tantôt, fait ça veut dire que ça doit pas être tant marqué.
Mais moi, je le sens, là, comme que ça chatouille, puis que c'est pas le fun, là. J'essayais de chanter, ça fait sûrement comme... Fait que bref, fait que c'est ça, c'était une belle fin de semaine, c'était bien nice, fait que je suis fatiguée, mais je suis bien contente d'être là. Puis aussi, on va parler aujourd'hui de la saison 2 de Russian Doll.
OK.
Et... écoute, on va commencer par mettre en contexte, là, puis après, je vais vous dire que j'ai dû rusher ma vie pour la finir, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour mettre un peu en contexte, là, donc on avait parlé à l'époque de Russian Doll quand la saison 1 avait été diffusée, mais la saison 1 a été diffusée en 2019. Mm-hmm. Et là, il y avait une deuxième saison qui a été annoncée assez rapidement après la fin de la première parce que ça avait vraiment beaucoup pogné. C'était un succès avec le public, c'était un succès de la critique et tout ça. Fait qu'il avait annoncé une deuxième saison. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'étais ultra sceptique. J'étais comme, non, c'est l'œuvre en soi, elle est complétée, on n'a pas besoin d'autres saisons, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment super sceptique. Puis récemment, dans les derniers comme 6 mois, là, je devrais dire, là, je suis allée lire sur la saison 2, puis avant qu'elle sorte, puis dans le fond, Natasha Lyonne avait dit, quand ils ont pitché le show à Netflix... Il avait pitché 3 saisons. Fait que techniquement, c'était déjà prévu d'avance que comme il y aurait quelque chose à dire après la fin de la saison 1. Moi, ça m'a. Fait que bref. Fait que finalement, non seulement ils ont quelque chose encore à dire là, mais je suis comme. Ils vont avoir quelque chose encore à dire à la fin de la saison. Dans la prochaine saison, je me dis. Qu'est-ce que tu vas avoir à dire? Mm-hmm. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour mettre en contexte, dans Russian Doll saison 1, on voyait donc une espèce de jour de la marmotte, mais un peu capoté, un peu sur le crack, où est-ce que t'as Nadia qui revit son anniversaire sans cesse, ou est-ce que à chaque fois qu'elle meurt, que ça dure, qu'elle meurt au bout de 15 minutes, au bout de une journée et demie, elle va revenir au même endroit et va découvrir par la suite que... un certain Allen, dans le fond, qui serait décédé au même moment dans la première timeline d'un suicide. J'ai mis les content warnings dans la description de l'émission, mais je vais vous le dire, il y a beaucoup de trigger warnings aujourd'hui parce que Russian Doll, c'est une série qui traite de gestion de trauma puis de gestion de la santé mentale. Puis c'est traité de façon, je crois, très intelligente, mais qui vient avec son lot de lourdeur. Fait qu'il y a trigger warning, consommation. On va parler aussi, donc c'est ça, de trauma, santé mentale, deuil, trauma, je vais être un peu plus précise, trauma familiaux et trauma générationnel que je l'ai appelé, puis j'avais même dit trauma culturel un peu, parce qu'on va beaucoup parler de l'Holocauste, entre autres, dans mm-hmm. cette émission, dans cette série-là. Fait que voilà. Fait que bref, tout ça pour dire que cette série est pas si lourde à écouter, mais les thèmes le sont. Mm-hmm. Je vais le dire de même, là, mettons. Fait que ça se peut qu'on aborde aujourd'hui des choses qui sont plus difficiles à entendre. Bref, retour à la mise en contexte de la série. Donc, elle et Allen se rendent compte qu'ils ont le même problème parce que, dans le fond, les deux sont morts. Elle d'un accident parce qu'elle faisait pas attention quand elle traversait la rue et lui parce qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il s'était fait laisser par sa blonde. Et... ils vont s'entraider, en fait, à sortir un peu en essayant de trouver une solution pour que finalement, la seule solution, en fait, pour pouvoir s'en sortir, c'est d'accepter un peu qui ils sont. Et dans le fond, de transposer leurs propres problèmes qui les faisaient être très, très, très concentrés sur eux à s'entraider dans 2 timelines différentes. Ou est-ce que, dans le fond, Allen, qui a réglé un peu ses problèmes personnels, va essayer de sauver Natasha, l'actrice, dis-je, Nadia, de son careless whatever. Puis elle va essayer de le rendre gars, ça vaut la peine de vivre. Et dans le fond, dans tous les cas, on sera jamais seul. C'était quand même... c'était ça. Puis en plus, il y avait beaucoup d'aspects reliés à, tu sais, aux jeux vidéo, à la physique, le fait que les gens disparaissaient aussi, que le monde collapse, là, que le monde s'écroulait sur lui-même à chaque fois qu'il revenait, basé sur le fait que, ben, le temps avance d'une certaine façon, mais dans le fond, le temps continue. Ça, c'était un des principes de la saison 1, où est-ce que, par exemple, les animaux disparaissaient, les gens mouraient, mais comme faisaient juste disparaître, mais il y avait entre autres les fleurs qui fanaient, les fruits qui pourrissaient un peu, mm-hmm. parce que le fruit était pourri, mais quand il l'ouvrait à l'intérieur, il était correct. Fait que ça voulait dire que dans le fond, le temps était comme se déroulait pas de la même façon lorsqu'ils étaient dans leur espèce de bug. Puis il faut rappeler aussi que Nadia est programmeuse de jeux vidéo et qu'il y a beaucoup donc de parallèles à faire entre l'utilisation de ces bugs-là, mais en lien un peu avec comment est-ce qu'on pourrait même voir un ordinateur fonctionner et tout ça. Donc ça, c'était la saison 1. Et dans la saison 2, qui déjà, on était comme... La finale était parfaite, ça finissait comme sur... Tout le monde, il est heureux, il est ensemble dans une grande fête. La saison 2 commence où est-ce que c'est sûr, on est presque proche de l'anniversaire de Nadia, 3 ans plus tard. Tout le monde a cheminé. Les gens ont l'air d'aller bien en général. Mais Ruthie, qui est la marraine, là, si on veut, de Nadia, qui est un de ses seuls membres de sa famille choisie, là, qui est encore en vie, va pas bien, sur le bord de mourir et tout ça. Et Nadia décide de prendre la ligne 6 du métro de New York et se retrouve propulsée dans les années 80. Et un des punchs du premier épisode, c'est que dans le fond, elle n'a pas voyagé, elle, dans le temps. C'est qu'elle a été transposée dans le corps de sa mère par une espèce de mémoire génétique. Si on pourrait prendre un autre thème récurrent de la science-fiction. Revit, en fait, a comme un contrôle sur les événements, mais à travers le corps et les yeux de sa mère. Alan va se rendre compte qu'il est capable de faire la même chose aussi dans les yeux de sa grand-mère, entre autres. Il va aller lui visiter. Mais en plus de ça, non seulement on voyage dans le temps, mais on voyage dans l'espace. Parce qu'ils sont capables d'aller en Est-Berlin, pré-chute du mur, et ils sont capables d'aller à Budapest aussi par le même train, apparemment. Pourquoi pas, rendu là. Fait que c'est ça. Et donc, Nadia va se rendre compte que, ben, le voyager dans le passé, c'est la meilleure occasion de faire ce qu'il faut absolument jamais faire dans toutes les hosties d'histoire de voyage dans le temps, c'est-à-dire changer le passé. Ha! Bravo! Bref. Et va tenter, donc, de régler toute la problématique. Dans la saison 1, on parlait beaucoup du fait qu'elle avait toutes les pièces d'or que sa mère avait perdues et que ça aurait pu payer ses études, ça aurait pu changer sa vie si elle avait accès à ces pièces d'or-là. Et elle va essayer, donc, de s'assurer que les pièces d'or se rendent à destination, c'est-à-dire dans le présent. Mais ça sera pas si simple que ça. Et ça va juste pas fonctionner. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison-là. Moi, j'ai énormément d'affaires à dire, mais j'aimerais, avant qu'on parle de notre appréciation générale, pointer le fait, parce qu'on en parlait juste avant de rentrer en onde, que malgré le fait que je me fie quand même beaucoup sur le tomato-meter de Rotten Tomatoes, je trouve qu'ils sont assez on point en général, là, pas le audience score, là, ça vaut rien, là, mais... Je m'excuse pas parce que l'audience est pas fine, mais c'est parce que je sais qu'ils peuvent avoir des campagnes de haine et tout ça pour aller changer l'agrégateur. Mais en général, bon, celui généralisé est quand même pas mal plus celui des critiques est comme pas mal plus représentatif, je trouve, d'une certaine critique. La saison 2, malgré le fait que le consensus dise que la série a beaucoup de faiblesses, a le même score, c'est-à-dire 97%. Fait comme je disais tantôt, c'est comme si tout le monde disait « c'est super bon, mais c'est moins bon, mais c'est quand même super bon. » Comme, puis je me demande, j'arrive pas à comprendre comment la critique, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est moins bon que la saison 1, comment tu peux donner le même score en général, tu sais? C'est-tu parce qu'il y a eu plus de critiques, parce que la série a eu plus de visibilité, je sais pas, je connais pas comment l'agrégateur fonctionne, mais grosso modo, le consensus de la critique puis le consensus qu'on va avoir en onde aujourd'hui, c'est grosso modo, la saison 2 est moins bonne que la saison 1 pour tout plein de raisons. Mettons, Marika, pourquoi toi, tu l'as trouvée moins bonne?
Ouais, puis moi, je l'ai quand même trouvée vachement moins bonne. Mm-hmm. Tu sais, mais dans le sens où, moi, ce que je comprends de la logique de Rotten Tomatoes, si je peux me permettre de porter une hypothèse, c'est que si on compare cette série-là à ce qui se fait dans le monde de la série, ça reste bon.
Ouais, c'est ça.
Mais si on la compare à sa saison précédente, ben là, c'est là que, pour moi, il y a des défauts qui ressortent. Puis comme tu l'as bien dit, moi, je suis une grande admiratrice de « on fait une saison, fini ». Comme, on a touché l'or, on touche plus après, là. Comme, c'est parfait comme c'est. Et surtout, ça avait pas fini sur un cliffhanger. Je veux dire, il y avait rien qui nous laissait croire que ce serait nécessaire de poursuivre l'histoire. Et là, quand tu dis que... il avait prévu une trilogie. Pour moi, là, c'est se mettre les pieds dans les plats, là, parce que je crois vraiment qu'après ce qu'on a vu dans la saison 2, il n'y a plus rien à dire. Déjà que je trouvais que c'était un peu pas vide de sens, parce que au niveau de la quête, je trouvais que c'était une bonne quête. Moi, c'est plus le voyage dans le temps qui m'a dérangé, dans le sens où il y en a des histoires avec des voyages dans le temps, puis je trouve pas qu'ils ont comme réinventé la roue. Tandis que la saison 1, c'était très surprenant, mis à part justement le jour de la marmotte, là, qui était pas non plus exploité de la même façon, j'avais pas vraiment vu d'histoires qui ressemblaient à ça. Et comme je te le disais un petit peu avant qu'on entre en onde, c'est peut-être l'effet de nouveauté qui m'avait autant plu, peut-être aussi, je m'attendais tellement à rien, t'sais, j'avais écouté la saison 1 parce que j'adore Natasha Lyonne, puis j'étais comme, ah oui, j'ai le goût de voir une série où elle est l'actrice principale, tout ça. Et finalement, j'ai été vraiment charmée, là, t'sais, je disais à tout le monde, c'est dans mon top 5 des séries, c'est tellement bon, tout est parfait, blablabla.
Mais tu vois, j'ai réécouté la saison 1 juste avant que la saison 2 sorte.
OK.
Puis, parce que à l'époque, je l'avais écouté 3 fois.
Oula.
La série. Mais c'est 8 épisodes de genre une des demi-heures à peu près. Fait que ça, c'est. Tu sais, je l'ai pas écouté 3 fois de suite, là. Mais tu sais, je l'ai écouté une première fois. Après, je l'avais écouté une autre fois avec quelqu'un d'autre. Puis je l'ai réécouté tout seul. Fait que là, c'était comme ou peut-être 2 fois. En tout cas, c'était ma 3e ou 4e écoute que j'ai fait. Parce que je me suis dit. 2019, j'ai vu beaucoup de choses depuis, on a évolué, moi j'ai évolué puis tout ça. Peut-être que je vais en revenir, tu sais, je vais peut-être faire ben c'était pas si bon que ça ou je vais juste en revenir, tu sais. Mais je l'ai réécouté récemment puis j'étais comme non, c'est vraiment brillant puis à chaque écoute, je trouvais des choses différentes puis à chaque écoute, j'étais comme je trouvais des couches de profondeur supplémentaire, fait que je suis comme OK, non, c'est vraiment bon là, tu sais, c'était pas une lubie, c'était pas le contexte ou whatever. Je pense que c'est vraiment une œuvre intemporelle qui va vraiment bien vieillir la saison 1 là, vraiment vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'était oui, l'effet de nouveauté peut-être, mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est vraiment bon là, puis je pense aussi que pourquoi la saison 2 est moins réussite à mon avis, c'est parce que déjà, on a un épisode de moins, c'est 7 épisodes, puis ils se permettent quand même de faire des choses qui servent pas à grand-chose, finalement. Tu sais, toute l'affaire qui se passe à Budapest, ça sert pas vraiment à grand-chose, tu sais, pour faire avancer, dans le fond, cette quête-là. Mais cette quête-là est pas inintéressante, comme tu dis, mais elle est comme trop compliquée pour rien, j'avais l'impression, à certains moments, tu sais. À moins que c'est parce que... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des proches qui ont vécu l'Holocauste. Tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé voir les scènes où est-ce qu'elle jouait elle était dans sa grand-mère à Budapest pour voir l'environnement de l'époque. Mais les scènes modernes à Budapest, j'ai pas trouvé qu'ils servaient à grand-chose. Il y a beaucoup de ces discussions-là qui auraient pu être remplacées, puis ces événements-là qui auraient pu être remplacés par des recherches Google, tu sais.
Ouais, oui.
Alors que le personnage de Christophe sert à rien, tu sais, mis à part. Ben, tu sais, il sert à introduire des notions, mais c'est comme trop long pour rien. Fait que je me dis, tu fais moins de stock, puis sais-tu qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Moins de Christophe puis de Rafe. La scène est intéressante au niveau, mais moins de jasage avec Christophe, genre plus de, peut-être une scène de Rafe, là, ça aurait été correct, une, mais moins de gossage de même, plus d'Allen.
Ouais, ouais.
Parce qu'on n'a presque pas vu Allen, tu sais, est-ce que c'est une question de l'acteur n'était pas disponible? Puis il y a des choses aussi qui avaient comme pas de sens au niveau de la narrative, genre, elle parle avec, tu sais, à un moment donné, à Budapest, elle dit à son amie, OK, on revient. sais, ça avait quand même l'air d'être une grosse, tu sais, comme moi, excuse-moi, mais aller à Budapest, ça me prend une couple de jours, là. Mm-hmm. Puis là, apparemment, elle, une semaine plus tard, elle est déjà rendue chez elle avec son chat, tu sais, comme littéralement une semaine plus tard, tu sais, on n'a même pas senti le passage du temps. Mm-hmm. C'était comme un peu weird au niveau de... Cet épisode-là était weird en général. L'épisode mm-hmm. de Budapest, là, je trouve que c'est le moins bien réussi, tu sais.
Puis, tu sais, pour revenir un peu au fait de, justement, la quête en soi est intéressante, mais au final, il y a beaucoup de choses qui servent à rien. C'est aussi que le résultat final, c'est l'échec, je veux dire.
Ouais.
Puis ça aussi, c'est un truc que, pas qui m'a déplu, mais qui, tu sais, je veux dire, combien de fois on a abordé le voyage dans le temps en disant, de toute façon, tu pourras pas changer les choses.
Puis Nadia est fucking geek, elle le sait.
Fait que je trouvais qu'on voyait Nadia un peu désemparée, puis vu comme ses traumas, c'est correct qu'on la voit un peu vulnérable, un peu instable, mais en même temps, je me disais, elle est plus intelligente que ça.
C'est ça.
Fait que c'était un peu décevant, puis heureusement que le personnage est hyper attachant. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait... Tu sais, moi, je suis in love avec ce personnage-là. Mm-hmm. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, fait que heureusement qu'elle est attachante, puis qu'elle m'a permis justement de poursuivre, parce qu'à certains moments, je décrochais complètement, à cause justement... que je la voyais mettre des actions en place, puis je le savais déjà que ça allait pas être une réussite, que ça donnerait rien au bout du compte. Puis ce sont beaucoup d'épisodes, ben beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais il y a plusieurs épisodes comme ça qui s'accumulent où on voyait un peu que ça allait ben, pas le fonctionner.
Punch, contrairement à la saison 1, où la première fois que tu le vois, moi, la punch finale, je l'ai pas vu venir pas en tout, tu sais, mm-hmm. le fait que... Parce que c'est tellement mystérieux, tu sais, c'est super bizarre, puis tu sais, alors que... On dirait que tu le sais déjà où ça s'en va.
Ouais.
Premier épisode, tu sais où ça s'en va.
Exact. Mais je pense aussi que c'est la saison 1 qui nous avait outillés à ce niveau-là, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tout ça, c'est pour comprendre, pour finalement s'affirmer puis comprendre qui on est un peu.
Mm-hmm.
C'est la même affaire, la saison 2, là.
Mais oui, mais non, parce que la saison 1, c'était, je crois, que c'était vraiment au niveau micro, c'est-à-dire c'était Alan ouais. et Nadia qui devaient régler leur bibitte à eux. Tu sais, puis leur notion de comme je suis suffisant en tant qu'individu, je vaux la peine d'être aimé, je vaux la peine de prendre soin de moi. Je pense que c'était comme plus la morale de la saison 1. Puis j'ai l'impression que la saison 2, c'est plus. Tu peux pas être responsable de tes parents, tu peux pas être responsable de ton passé, tu peux pas être responsable de l'histoire aussi, parce que il y a la notion, tu sais, du racisme qu'a vécu la grand-mère de Alan. Il y a la notion aussi que comme le Berlin à l'époque de la guerre froide, je veux dire, t'as aucun pouvoir là-dessus, tes proches n'ont aucun pouvoir là-dessus. Puis tu sais, c'est un peu ce que sa grand-mère lui dit là, tu sais, quand elle dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, il faut laisser aller parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Tu sais, on n'a pas de pouvoir sur... voyons, on n'a pas de pouvoir sur ces grandes choses-là qui nous dépassent. De la même façon que, tu sais, Nadia pourra pas arrêter l'Holocauste, mm-hmm. tu sais, c'est drôle parce qu'elle fait la joke à Alan, puis elle dit genre... parce qu'il dit qu'il est allé en Allemagne, puis là, elle est comme « Ah, fait que c'est toi qui vas tuer Bibi Hitler, tu sais. » Puis mm-hmm. il est comme « Non, mais je peux aller assez loin pour ça, puis de toute façon, tu sais, comme... De toute façon, c'est dans la mécanique, parce que c'est pas toutes les affaires de voyage dans le temps qui tu sais, c'est drôle parce qu'elle dit genre je vais créer mon effet papillon là, tu sais, je vais, tu sais, alors que c'est drôle parce que je pense à Maude qui nous avait fait un épisode sur l'effet papillon aux Amazones, je vous invite à aller le réécouter, mais où, grosso modo, c'est pas ça l'effet papillon là, mais ça c'est une autre affaire là. mais c'est ça, c'est que dans le fond tu peux pas changer, tu sais, tu pourras pas le changer, fait qu'il faut que tu l'acceptes. Puis tu sais, même sa mère lui dit, si tu pouvais changer de mère, tu choisirais-tu quelqu'un d'autre? Puis elle répond pas, je pense, elle fait juste sourire ou je sais pas si elle dit oui, mais tu sais, clairement, elle est en paix avec ça.
Ouais, à la fin, ouais.
Parce que je pense que là, elle voyait comme une option pour dire, ben si je règle tout, ma mère virera pas folle, mais ouais. Tu sais, elle va pas mourir, ma famille va pas la rejeter, on va pas être dans pauvreté, on va pas, tu sais, Ruth va peut-être être en meilleure santé puis tout ça. Mais finalement non, mais c'était trop, c'est ça, c'était pas clever. tu sais, comme tu dis, c'est que c'est du déjà vu, c'est des choses qu'on, tu sais, fait que j'aurais aimé ça qu'il aille plus loin que ça ou qu'il explore ou qu'elle dise, tu sais, mettons que elle disait, je le sais que... mettons que la série, on l'a réécrit au complet, la saison 2. Même mécanique de voyage dans le temps, mais au lieu que la caisse, ça soit « je vais changer le passé », parce que tu peux pas, c'est « je veux comprendre ».
Ouais.
Tu sais, je veux savoir c'est quoi qui s'est passé, je veux le voir, je veux le catcher, tu sais.
Mais c'est définitivement pas ça. Puis tu vois, moi, je poursuis sur mon idée que la saison 2, ça reste de l'affirmation, parce qu'elle fait tout ça, mais c'est pour s'accepter, elle.
Mais est-ce que t'as-tu vu là, ce que je t'ai envoyé hier, le livre qu'elle lit?
Ouais. Oui, j'ai tout lu le truc qui venait avec, là, le synopsis.
Parce qu'effectivement, tu sais, c'était comme... Puis ça va avec exactement ce que tu dis par l'affirmation. Je voulais te dire, dans le fond, qu'on était à un autre niveau.
Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes moyens qu'on utilise pour s'affirmer. Mais au final, puis peut-être ça, c'est juste mon point de vue, mais je trouvais encore une fois que c'était une quête assez égoïste. Parce que dans le fond, j'ai vraiment l'impression, comment je lis le personnage de Nadia, c'est que, mettons, tous ses défauts, tous les problèmes qu'elle a, elle vient mettre ça un peu sur comment sa mère l'a élevée, comment c'était quoi la situation familiale qui était quand même...
Mais alors que dans la saison 1, elle n'était pas capable d'en parler.
Non, exact.
Fait que c'est comme si on avait un autre...
Un autre niveau de compréhension de soi-même, puis elle struggle encore avec ça. Mais, genre, tu sais, j'avais pas l'impression qu'elle tentait justement, comme tu l'as bien dit, de comprendre. Elle était juste là pour faire comme on va changer ça pour que j'ai une meilleure enfance, pour que je sois une meilleure personne, pour...
Ouais.
Fait que j'ai quand même aimé la fin en soi qui est... Justement, je pense que c'est dans la dernière scène où elle est avec sa mère que sa mère lui dit justement « si tu pouvais choisir une autre mère ». Puis elle fait juste dire quelque chose comme « de toute façon, les choses vont aller comme elles sont allées ». Fait que
c'est le
but, c'est juste de comprendre que, ben, on pourra pas le changer, puis comme on va vivre avec, puis...
Fait qu'il faut arrêter de regarder dans le passé.
Exact.
Fait que la saison 3, ça se passe dans le futur. Ben, l'autre était comme pas capable de sortir du présent, là. Était tout le temps dans le présent, était tout le temps pogné dans le même deux jours, là, tu sais, comme interminable. Puis c'est drôle parce que Alan, tu sais, elle se vole son bébé elle-même.
Oui.
Puis là, elle se ramasse dans le même party. Puis là, ouais. Aline qui dit le temps est en train de s'écrouler, l'espace-temps est en train de s'écrouler, on est revenu au même party. Puis là, où est-ce que comme tout le temps est comme, tu sais, où est-ce qu'on revoit l'école juive par-dessus le party, puis tout ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est comme, OK, là, vous étiez comme toutes pognées dans le présent, là, vous réglez pas vos bébites d'aujourd'hui, là, vous regardez dans le passé. Fait que ça va être quoi? Mais c'est pour ça que je me dis, ça va être quoi la saison 3? Parce que je me dis, comment tu peux aller plus loin que le trauma générationnel, genre, des communautés juives et de l'Holocauste, tu sais? Ouais, mettons, je me dis, ça va être quoi la prochaine étape, là, tu sais? Comme je te dis, peut-être que ça va être le futur, ça va peut-être être capable de se projeter dans l'avenir, parce que clairement, ils sont jamais capables de se projeter dans l'avenir, ces deux-là.
Ouais, non, définitivement.
Ils étaient tout le temps pognés dans le présent, puis là, ils regardaient tout le temps en arrière. Fait que peut-être que c'est ça, là. Ça va peut-être être ça, la prochaine affaire. Ou un autre concept physique, peut-être.
Ouais.
Parce que c'est ça, tu sais.
Ça serait plus original.
Ça serait plus original parce que, tu sais, tu vois, comme dans la saison 1, il y avait beaucoup la notion des bugs.
Ouais.
Tu sais, où est-ce que c'était comme, OK, c'était buggé, fait qu'on revenait en arrière. Puis là, on voyait plus l'imaginaire du trou de verre, là, tu sais, justement, qui est plus utilisé dans le voyage dans le temps. Ou est-ce que, tu sais, comme le fait qu'elle passe dans le train, puis que quand elle avance dans le train, puis qu'à chaque fois qu'elle repasse dans le train, ben elle revient comme sur elle-même. Mais c'est pour dire que c'est comme ça que le temps, il fonctionne, tu sais. Le temps, ben selon certaines théories, là, tu sais, que ben le temps, c'est un continuum, mais c'est un continuum qui revient sur lui-même. Puis c'est comme ça que tu peux voyager dans des trous de verre, parce que dans le fond, le trou de verre aspire, le trou de verre est comme replié sur lui-même, qui te permet de ressortir à réécouter Interstellar, là, whatever, là, t'sais, mais, en tout cas, on se comprend, là.
Oui. Puis, mais il y a un truc que j'ai aimé, par contre, au niveau du voyage dans le temps, j'ai aimé qu'il y ait des conséquences. Parce que, justement, elle est tellement stickée, fixée sur le passé, pour vouloir justement arranger le présent, qu'elle en oublie ce qui est en train de se passer dans le présent, à savoir
que Ruth meurt. Voilà. Qu'elle va manquer. Ça, j'ai trouvé ça osé que c'est fait, là.
Ouais.
Il est trop... Tu l'as manqué. Tu pourras pas le revivre. Puis ils disent un petit peu au début de la saison, là, c'est comme... dans la saison 2, là, ils disent « le temps passe... T'sais, si je passe deux jours dans le passé, il y a deux jours dans le présent qui ont... T'sais, j'ai manqué ça. » Puis, tu sais, mais tu vois, c'était bizarre parce que, tu sais, comme la route de Schrödinger, là, tu sais, qui était le nom de l'épisode où est-ce qu'ils sont comme, tout est dédoublé, là, c'est là que ça, ben, le bébé était sorti de son espace-temps, fait que tout commençait à déjà s'écrouler.
Ouais.
Mais c'est bizarre parce que, tu sais, le chat de Schrödinger, mais je suis pas une grande experte en physique, là, peut-être que quelqu'un me dirait que, ah, non, c'est super bien expliqué, là, parce que, tu sais, je viens d'avoir un flash, je peux vraiment me tromper, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, la saison 1, on était très proche peut-être de la théorie de la relativité. Là, tu sais, Schrödinger, on est plus dans la physique quantique. Fait qu'est-ce qu'on va aller comme dans des métaphores plus de la théorie des cordes, je sais pas, là, tu sais. Fait qu'on va aller, ça veut dire qu'on va aller dans le multivers, dans la troisième saison, logiquement. On verra bien. Puis là, ça va être les mondes possibles. Parce que c'est ça que je trouvais particulier, parce que j'étais comme le chat de Schrödinger. C'est vraiment le fait que... comment la physique fonctionne, c'est que tant que t'as pas vérifié, t'sais, les probabilités font que tant que tu vérifies pas, tu connais pas l'état des choses. Fait que, t'sais, dans le fond, Ruth... mais c'était comme bizarre, parce qu'elle était comme... Vu que le temps s'écroulait, elle était comme à la fois dans une période du temps puis dans une autre période de temps.
Ouais.
Mais c'était pas comme deux, parce que dans le fond, le chat Schrödinger, c'est que c'est simultanément. Il est à la fois en vie et mort tant que t'as pas vérifié. Parce que statistiquement parlant, tu peux pas définir l'envoi du photon, je pense, ou whatever. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me questionnais sur cet épisode-là, parce que j'étais comme, ben, elle est pas en deux états en même temps, qu'elle est pas capable de vérifier. Elle est juste pas au même espace-temps. Et pas dans le même temps. Mm-hmm. Tu sais, mais elle est là en même temps, dans deux temps. Fait que, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment particulier qu'il ose. Puis c'est pour ça que je pense que le multivers s'en viendrait peut-être dans saison 3. Parce qu'on est revenu dans le party. Puis on a ramené aussi les morts de Nadia. Parce que Nadia se revoit morte sur les tables. Et aussi, dans son expérience de DMT, la DMT qui est une drogue tirée de l'ayahuasca, comme il explique dans l'émission, mais aussi ce qu'ils disent, là, dans le fond, de la DMT, c'est que, tu sais, tu connais sûrement ça, là, les drogues en général, mais comme pour qu'une drogue fonctionne, il faut que la molécule de la drogue soit capable d'être captée par ton cerveau. Si ton cerveau a pas déjà l'équivalent du capteur dedans, il sera pas capable de traiter le psychotrope. Fait que tu pourras pas avoir l'expérience du psychotrope. Fait que la DMT serait une équivalence de ce que tu reçois dans ton cerveau au moment de ta mort. Fait que c'est comme pour revivre une expérience, c'est pour vivre une expérience de mort imminente, grosso modo. Fait que c'est pour ça que quand il dit, ah, on va fumer de la DMT, tu sais, c'était comme, oh, mais comme, ça avait super gros logique qu'elle se revoyait mourir sans arrêt, puis dans toutes les façons qu'elle le faisait, parce que c'est comme, elle a vécu elle-même la mort. Fait que probablement que son cerveau l'a même produit souvent. Tu sais, techniquement, nous, on la subit pas tant qu'on meurt pas, ou whatever, ou qu'on n'a pas comme une expérience de mort qu'on peut avec c'est quoi le mot que je cherche, pas de ressusciter mais quand t'es réanimé,
oui,
voilà.
Okay.
Fait que, en tout cas, ça pourrait s'en aller là-dedans, mais je viens de réaliser que j'ai mis en contexte le je t'ai envoyé un article, on en a pas parlé pantoute, mais c'est parce qu'on est reparti sur le fait de s'affirmer, là. On va revenir un peu en arrière, nous autres, on voyage dans le temps. C'est parce que on voit donc tous les gens qui sont dans le train et qui sont à des moments différents de leur vie, mais qui sont là, il y a Ruth jeune, Ruth vieille, la grand-mère, la mère, Nadia. Et Nadia se revoit enfin et elle lit un livre que je connaissais pas, mais que j'ai fait un peu de recherche, donc qui s'appelle Damian, qui était un livre très, très populaire, un livre allemand très populaire, qui parle en fait du fait d'avoir un double, un peu un ami imaginaire qui te permet un peu de te développer. Puis une fois que t'es prêt à laisser aller cet ami-là, ben t'en as comme plus besoin, là. Fait que c'est ça, je trouvais ça intéressant que, dans le fond, Nadia jeune, tu sais, ça fait plusieurs fois que c'est Nadia enfant qui dit à Nadia adulte, ça va être correct.
Ouais.
C'était ça dans saison 1 aussi. Fait qu'on dirait que Nadia jeune était plus sage que Nadia vieille, là. Fait que... Bref, pour les gens qui se demandaient pourquoi on a parlé de ça il y a 15 minutes puis qu'on l'a remis en contexte.
Voilà.
Ouais, j'ai beaucoup parlé. J'ai mal à la gorge. Un autre aspect, peut-être, de la série?
Ben, un des aspects qui m'a quand même beaucoup plu, ce sont les multiples figures féminines qu'on a dans la série. Mm-hmm. Je dirais que 75% de la distribution est féminin. Puis que il y a aucun de ces personnages-là qui semble être cantonné à un rôle typique féminin. Ils sont nombreux et ils sont quand même assez tous nuancés, je trouve. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage de la mère de Nadia. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Et tu vois, Alan, effectivement, moi, il m'a manqué, mais j'ai tellement trouvé que son histoire avait pas de substance, dans le sens où on dirait qu'elle a juste été pitchée là pour nous dire « Ah oui, c'est vrai, vous vous rappelez, il y en avait un dans saison 1 qui la suivait. Il est encore là, il fait la même affaire. » Mais c'est ça. Mm-hmm. Moi, tu vois, tant qu'à avoir ce que j'ai eu d'Alan, j'aurais juste évacué Alan puis j'aurais mis plus du jeu de la mère.
Mais des fois ces affaires-là, c'est dû à, tu sais, l'acteur n'était pas assez disponible. Tu sais, des fois, on le saura pas, tu sais, est-ce que...
Too bad,
ou la pandémie, tu sais, aussi, là, des fois, ça l'a joué, là, comme c'est arrivé plusieurs fois dans... Ben, c'est peut-être aussi des excuses de production, là, mais tu sais, où est-ce qu'ils disent, ben, on avait plein d'affaires de prévues, mais la pandémie faisait qu'on a dû couper du tournage, on a dû whatever, fait que je ne sais pas. Parce que c'est tout ça, tu sais, c'est-tu parce que la trame d'Alan a été mise de côté, mais...
Mais j'aurais quand même pris plus de ces personnages féminins-là, qu'il s'agisse de Ruth, qu'il s'agisse de la grand-mère, dont j'ai oublié le nom, je pense que c'est Vera, le nom de la grand-mère. La mère, c'est Nora, Nadia, et en tout des noms qui... Il y a Maxine, quand même, qui est là aussi un petit peu. Dans l'épisode de Budapest, entre autres. Là.
Ouais. Non, elle est comme plus en comic relief, j'ai l'impression.
Ouais, mais hello.
Hello.
Puis, fait que, tu sais, ça, j'ai quand même aimé toute cette idée aussi de justement intergénérationnelle de femmes. Mm-hmm. Tu sais, on voit la mère de Nora, on voit la mère de Nadia. Il y a quelque chose d'intéressant dans la répercussion de l'éducation de ces femmes-là envers la progéniture, moi, je trouve.
Puis aussi, Vera, quand Nadia est en Vera, son amie, whatever, en tout cas la fille qui y parle, je pense qu'elle fait un commentaire du genre « Tu veux-tu finir comme ta mère? » Puis on parle beaucoup du trauma générationnel, justement, ou probablement que, tu sais, ça doit traîner dans la famille aussi, ces bobos-là, puis tout ça qui se règle pas, puis qui sont... Puis tu sais, ça faisait beaucoup partie, en fait, des raisons pourquoi Nadia voulait jamais affronter les affaires, parce qu'elle était comme, ben... Je suis prédestinée à devenir autre chose. C'est beaucoup de la prise de pouvoir à travers tout ça. Mm-hmm. En fait, c'est drôle. C'est comme si la première saison, c'était beaucoup une prise de pouvoir, puis que la deuxième saison, c'était beaucoup un laisser-aller, en fait. Là. C'est comme, dans le fond, t'as tout appris que. Dans le fond, c'est comme t'as repris le pouvoir de toi-même, mais là, malgré le fait que t'auras tout repris ce pouvoir-là, t'auras beau faire tout le travail pour reprendre du pouvoir sur ce que t'es capable de changer, il y a tout le reste que tu seras jamais capable de changer, tu sais.
Exact. Mais puis, c'est de comprendre qu'est-ce que tu as justement le pouvoir de contrôler puis qu'est-ce que tu peux pas contrôler. C'est de faire la différence entre les deux, finalement.
Parce que, tu vois, j'ai été surprise que, dans le fond, c'est que c'était quand même mieux amené que j'aurais cru. Parce que, tu sais, mettons, dans Dark, là, notre série de science-fiction et de voyage dans le temps de Netflix, il y avait beaucoup la notion, en fait, du paradoxe, que j'ai oublié le nom, là, mais le paradoxe de quand tu crées un objet... Mais que c'est, dans le fond, l'objet est créé parce que quelqu'un du futur vient te le porter. Fait que ça fait comme, dans le fond, que l'objet est intemporel parce que il a voyagé à travers le temps puis il est rendu nécessaire à sa création. Fait qu'il s'est comme créé lui-même, là, puis tout ça. Au début, je sentais que ça s'en allait vers ça, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui s'est passé par rapport aux pièces d'or, c'est Nadia qui les a installées, mais c'était pas ça. C'est pas ça qui s'est passé, parce que finalement, ce qu'elle dit, c'est même quand j'essaie de contrôler la route des pièces d'or, c'est la même chose qui va se passer, je pourrai jamais rien changer. Puis tu vois, c'est intéressant parce que elle est dans le corps de Vera lorsqu'elle décide de mettre les pièces d'or au même endroit qu'ils étaient. Fait que ça veut dire qu'elle avait déjà la notion de comme... OK, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire.
Effectivement.
Mais elle va quand même décider de se voler en bébé.
Oui. Ça, moi, ça m'a rendu vraiment mal à l'aise. Tout le moment où j'ai compris qu'elle jouait sa mère alors qu'elle était dans le ventre, j'étais pas bien, là. J'étais comme... Je sais pas, j'ai vraiment eu comme une réaction physique en me disant « Non. » je veux pas que cette chose-là se passe. Puis comme, c'était écrit dans le ciel qu'elle allait assister à sa naissance, qu'elle allait en fait se donner la vie. Puis pour moi, c'était comme, ben voyons donc qui font ça. Puis en réalité, encore une fois, ça n'a rien vraiment changé, mis à part l'épisode où justement elle ramène le bébé dans la fête de la première saison, là, son anniversaire à elle de 37 ans, si je me rappelle bien. Puis que là, justement, on commence à voir, puis que Alan lui dit, là, t'as tout fait bugger, t'as fait exactement ce qu'il faut pas faire, blablabla. À part ça, pas tant de conséquences, là.
Ben, c'est que, dans le fond, c'est sa renaissance, tu sais. Parce que, dans le fond, elle a comme passé au travers. C'est comme si elle avait revécu, peut-être avec la fausse impression qu'elle avait du pouvoir, mais dans le fond, peut-être qu'elle n'en avait pas pantoute déjà. Tu sais, peut-être qu'elle croyait qu'elle maîtrisait les gestes qu'elle posait, mais peut-être pas pantoute finalement, tu sais. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est comme elle a vécu dans le corps de sa mère quand elle a perdu les pièces, elle a vécu la naissance, elle a vécu, tu sais, elle a passé à travers beaucoup de choses qui ont rapport avec comme son histoire à elle, tu sais, puis à travers le corps de sa grand-mère aussi. Mais au final, comme tu dis, c'est que, tu sais, comme pour moi, sa naissance sur le, ça servait pas à grand chose, mis à part d'être une très, 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 très grande symbolique.
Ouais.
T'sais, c'est pour ça. Moi, c'était un, c'est ça, en fait, c'est que, dans le fond, la saison 1, tout était là pour une raison, tout était clever, tout était surprenant. Puis la saison 2, tu sens que c'est là, mais que ça fait moins un tout fluide, je trouve, en fait. Parce que c'est comme si le narratif était au service de la symbolique. Ouais. Alors que la saison 1, c'était plus que, dans le fond, la narrative et la symbolique sont imbriquées.
C'est en symbiose.
C'est ça, exactement.
Puis, tu sais, pour revenir justement au vol de bébé, là, ben, au vol d'elle-même, finalement, à ce jour, je cherche encore c'était quoi son intention.
Ce qu'elle a dit, c'est: si on est pour avoir une mère comme ça, je vais être notre mère. Ça, c'est ce qu'elle a dit.
Mais dans ma tête, t'sais, à quoi elle s'attend?
Je sais pas. C'est une panique, là. C'est juste la panique, là.
Mais elle garde quand même un bout, le bébé, là.
Ah ouais, elle garde deux.
Elle donne même à son amie qui a pas de bébé.
Ouais, ouais.
Dont j'ai oublié le nom. Moi, pendant un bout, je pensais que, genre, le bébé allait rester avec son amie, là. Mais tu sais, justement, comme tu le disais, puis ça, c'est un truc qui m'a agacé pas mal.
Elle laisse à Lizzie.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Y a genre plein de moments où j'étais comme, mais attends, là, la scène qui vient de se passer, puis la scène qui se passe maintenant, je comprends pas. Puis il y a plein de moments où j'ai dit à mon chum, puis ça, c'est ce genre de questionnement un peu banal, mais j'étais juste comme, mais comme dans le présent, quand il est dans le passé, là, dans le présent, il est pas là. Mais il n'y a personne qui la cherche. Il n'y a personne qui se demande où. Elle va pas au travail. J'étais comme,
dans saison 1, c'est logique parce que c'est pas assez de jours pour s'inquiéter.
C'est ça. Ouais. Tandis que là, clairement, ça ne dure pas un mois, mettons. Mais il y a des moments où tu te dis, mettons, Ruth, justement, quand elle est en train de mourir.
Mais elle lui laisse des messages. Là, Maxine, à un moment donné, elle revient.
Ah oui, oui, c'est vrai.
À un moment donné, elle revient dans le présent.
C'est comme ça qu'elle comprend que. Ouais, OK. Mais ça reste que. Pour moi, il y avait beaucoup de moments où j'étais juste comme, ben là, pour moi, c'est incohérent. T'sais, elle passe trop de temps dans le passé pour qu'on ne voit pas des questionnements au niveau du présent, mis à part justement l'impact final où finalement on comprend qu'elle n'a pas été présente dans les derniers moments de Root.
Mm-hmm.
Fait alors que tout me semblait si calculé, si précis, comme à la lettre dans la saison 1,
pour moi,
on l'a un petit peu échappé dans la saison 2 à ce niveau-là.
Vraiment.
Puis je pense que comme, c'est pas que c'est inévitable, mais quand on travaille avec le voyage dans le temps, faut s'assurer d'une certaine précision.
Mais Dark a réussi.
Ouais, mais il y a très peu de choses qui sont au niveau de Dark en ce qui concerne le voyage dans le temps, là.
Non, c'est ça. Puis tu sais, Dark a réussi aussi parce que c'était pas si compliqué aussi. Tu sais, on peut essayer d'être compliqué. Ben, c'était compliqué, mais...
Non,
mais je veux dire, dans le sens que c'était... Il y avait pas tant de notions qui se superposaient. Genre, je sais pas ce que je veux dire. Dans le sens que c'était très, très... L'arbre était complexe. La suite des événements était complexe. Mais il y avait pas trop de concepts de science-fiction mis un par-dessus l'autre. Fait que, dans le sens que... Fait que c'était comme... C'est du voyage dans le temps. Puis ils ont mis un peu d'univers parallèle à la fin, mais ça fonctionnait parce que c'était comme... Il y a deux trames possibles, mais qui sont tous les deux partis du même point, qui sont du, ouais. du moment où est-ce que telle affaire arrive. Puis si, dans le fond... Tu sais, dans le fond, peu importe le nombre... Ben, dans le fond, on voit deux univers, mais il y en aurait tout plein, là, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais
c'est qu'on voyait la série comme un tout aussi.
C'est
Tandis ça. Tandis que là, c'est comme saison 1, saison 2, puis c'est de l'accumulation, pour moi, plus qu'on avait déjà devant nous le grand tableau de ce que ça allait être.
Ben, c'est ça.
Puis là, c'est pour ça que j'ai peur pour le troisième morceau, parce que là, je me dis, là, ils vont venir rajouter un tas sur la pile.
Ouais. Mais des fois, ça, c'est le genre d'affaire qui peut être gagnant.
Qui peut sauver, ouais.
Ouais, parce que des fois, le tout est plus digeste dans le sandwich. Mm-hmm. Tu sais, comme il y a beaucoup d'affaires que des fois, mettons, ça souffre. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est Sherlock, là. Sherlock, la dernière saison, plus ça allait, moi, j'aimais ça. Mais j'ai fait l'exercice de toutes les écouter d'un bord à l'autre, puis ça devenait comme un tout digeste pris en un tout. Parce que là, ça faisait comme une suite plus... je sais pas, peut-être que mes attentes étaient descendues parce que rendu là, je le savais que la dernière saison était moins bonne, mais je trouvais que c'était plus logique dans son ensemble, alors que c'est ça, il y a beaucoup de, tu sais, comme récemment Tania, une de nos Amazones, qui a réécouté toute Game of Thrones d'une shot, puis elle a dit qu'elle avait beaucoup fait la paix avec des éléments qu'elle avait pas aimés dans les dernières saisons, parce que justement le tout était comme... La somme est plus grande que... Le tout est plus grand que la somme des parties, genre, dans le fond. Puis peut-être que c'est ça qui va arriver s'il y a une saison 3, que quand tu vas le regarder d'un bord à l'autre, tu vas te faire comme... OK, c'est digeste, mis tout ensemble. Peut-être, peut-être pas.
Mais il faudrait que ça s'arrête vraiment en saison 3, par exemple.
Ben 3, c'est un bon nombre de saisons. 3, là, ouais. C'est trilogie, ça se deal. Puis si on se dit qu'il y a de la symbolisme à côté puis qu'ils avaient prévu ça, comme je te dis, s'ils se disent, bon, ben mettons, théorie de la relativité, théorie... puis là, je dis n'importe quoi, là, c'est que c'est vraiment pas ça pantoute, là. Faudrait que j'aille regarder plus de vidéos YouTube d'analyse, là. Mais si on se dit que ça rajoute des couches, tu sais, comme je te dis, genre, OK, je suis pas capable de dealer mon présent, fait que, mettons, dans une thérapie, peut-être que... Faut que tu règles les choses immédiates qui te bloquent à la thérapie. Puis après, tu peux peut-être essayer d'aller checker des traumas, mais après, il faut que tu suscites l'espoir, il faut que tu aies un avenir. Fait que pour moi, ce serait quand même logique que s'il y a une saison 3, ça soit d'être la capacité de se projeter dans l'avenir, puis que ça pourrait peut-être passer justement par l'univers des mondes possibles, qui n'a pas encore été trop exploré, mais qui, en fait, c'est comme jamais totalement... exploité à son maximum, mais c'est tout le temps saupoudré.
Ouais.
Tu sais, le fait que, comme, tu peux être à deux, trois endroits en même temps, le fait que, comme, Alan et Nadia, qui se connaissent, viennent de deux mondes possibles, mais qui se sont rejoints à la fin de la saison 1 dans un... C'est comme s'ils avaient voyagé puis qu'ils avaient créé un seul univers possible à partir de leurs deux univers possibles. Je pense que ça serait là-dessus que s'il y avait une saison 3, ça s'en va, parce que c'est ça.
Mais... Ça serait quand même bien parce que aussi au niveau du personnage de Nadia, moi je sais pas c'est quoi les objectifs de ce personnage là. Tu sais, mis à part de se guérir pour pouvoir continuer d'avancer, tu sais, à long terme, j'ai aucune idée de c'est quoi les intentions de ce perso là. Je veux dire, tu sais, pour moi, elle représente tellement le chaos, elle est si spontanée, impulsive. Tu sais, quand elle prend le train puis qu'elle voyage la première fois, elle capote pas tant que ça, là. Tu sais, elle est quand même assez chill avec ça. Puis même quand elle voit qu'elle est sa mère, elle continue. Puis tu sais, ça, c'est peut-être qu'en tant que téléspectateur, nous, on la voyait plus souvent en tant que Nadia, même si à ce moment-là, elle était Nora. Il y avait quand même des scènes où on la voyait en étant Nora, mais c'était plus des scènes de miroir, des scènes de vitre où on voyait son reflet. D'ailleurs, c'était... assez magnifique à ce niveau-là, le jeu. Mais on la voyait plus en tant que Nadia à l'écran. Pour moi, tu sais, c'était Nadia. Même si elle savait qu'elle était dans le corps de Nora, elle jouait... En fait, elle jouait pas. Elle restait Nadia. Puis elle avait des comportements qui pouvaient être répréhensibles pour une femme qui était Nora à l'époque. Tu sais, je pense que les femmes agissaient pas comme, admettons, Nadia agit dans la vie de tous les jours dans les années 80. Elle aurait été remarquée d'ailleurs... À quelques moments, on questionne comment elle agit. Fait que, tu sais, j'avais l'impression que c'était pas tant un gros truc pour elle, là, d'avoir voyagé. Puis elle continue. Après, là, elle devient sa grand-mère, puis il y a pas non plus de réaction exagérée.
Mais tu vois, c'est pour ça que je me questionne un peu au niveau de le réel pouvoir qu'elle avait dans le passé.
Ouais.
Parce que, tu sais, le fait qu'elle décide de suivre le gars qui décide de la frencher vite de même, ouais. on le sait qu'elle est impulsive, ouais. mais ça avait vraiment l'air bizarre. Mais si on se dit qu'elle peut pas changer
ouais.
les choses, ben elle va le faire quand même. Mm-hmm. Elle va pas avoir le réflexe de... Puis peut-être que dans le fond, c'est peut-être pour ça qu'on la trouvait des fois... stupide, je vais ouais. mettre des gros guillemets, qu'on la trouvait comme, oui, c'est une personne impulsive, mais c'était surtout une personne ultra brillante. T'sais, ça a ouais. toujours été une personne très brillante. Mais c'est-tu parce que, dans le fond, ben, elle était comme un peu dans un espace un peu nuageux dans l'esprit de sa mère, puis que, dans le fond, même si elle avait l'impression de pouvoir faire de quoi, dans le fond, elle peut rien faire. Fait que, tu sais, des fois, elle était comme, ah, oh, ben oui, je vais te suivre. Ben oui, je vais faire ça. Ben oui, je vais, non, ben oui, tout va bien. Puis, on va continuer de même. Puis, OK, je vais l'accoucher, le bébé. Puis, OK, ouais. je vais faire ça. Tu sais, puis peut-être que, dans le fond, quand elle a décidé de, voyons, peut-être que, parce que c'est logique que sa grand-mère Vera, trouve ses choses. Elle cherchait ses propres choses dans ouais. le hangar.
Ouais.
Fait que ça serait quand même logique que Vera ait été capable d'aller récupérer les objets de valeur puis des cachets, puis qu'elle a fait exactement la même chose, puis que dans le fond, elle savait... On dirait que c'était comme instinctif des fois. Ouais, comme ouais, les, ouais. On dirait qu'elle trouvait facilement les affaires, qu'elle trouvait mm-hmm. facilement les... comme elle suivait les bons indices, tu sais, à travers tout ça. Tu sais, comme elle trouve un petit truc dans ses... Tu sais, elle trouve un petit truc d'allumette, puis elle décide d'y aller directement. Puis, fait que c'est pour ça que je pense qu'elle avait pas vraiment de capacité d'avoir vraiment de l'impact.
Ouais, effectivement. Puis, je veux dire, les gens qu'elle rencontre sont pas des très bons guides, là. Tu sais, il y a personne qui l'aide tant que ça.
Non,
je veux
c'est
dire,
ça.
Elle fait pas mal la quête par elle-même sans trop se poser de questions.
Ouais.
Tu sais, c'est, comme tu dis, c'est assez facile. Fait qu'on on pourrait justement critiquer ça en disant, comme dans bien des séries, ben, coudonc, tu sais, finalement, elle aurait pu faire ça les yeux fermés, mais en réalité, ça pourrait s'expliquer par le fait que, ben, c'est parce que ces choses-là étaient déjà prédestinées, disons. Mm-hmm. Fait qu'elle faisait juste suivre le mouvement naturel de l'histoire, là, finalement. Là.
Mm-hmm.
Alors que Alan, un peu moins, je trouvais, si on compare.
Mm.
Alan, il est plus saisi là, à certains moments dans son histoire. Je
mais
trouve.
on le voit pas découvrir aussi.
Ben,
on le voit, il est comme déjà habitué. Quand on le voit dans le passé, là.
Ouais, il est hyper à l'aise d'être sa grand-mère. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais on le voit quand même découvrir qu'il participe à.
Oui.
T'sais, ça, il savait pas du tout, là. Puis ça prend quand même un petit moment avant qu'il se rende compte que, ben, finalement, il a participé à vouloir passer.
Des gens de l'autre côté du monde.
Ouais, exact. Voilà. Fait que, mais tu sais, ça, encore une fois, comme je le disais tantôt, histoire hyper intéressante qui finalement.
Puis tu vois, c'est vraiment curieux parce que je le trouvais tellement imbécile quand il est allé parler aux gendarmes,
ouais.
qui a donné de l'information. Mm-hmm. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu dis ça? C'est tellement. Pourquoi? Pourquoi?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Dis pas ça, tu sais. Puis ben, peut-être que c'est parce que c'est ça qui s'est passé.
Ouais.
Peut-être que c'est pas de cette façon-là que ça s'est passé, mais que c'est cette information-là, elle a fuité. Peut-être que sa grand-mère s'est faite questionner, elle s'est peut-être faite harceler, peut-être pour ça qu'elle a quitté l'Allemagne, tu sais.
Mm-hmm.
On le sait pas, tu sais. Mais il a donné l'information quand même, alors que j'étais comme, mais fais pas ça, t'es bien épais, tu sais.
Ouais, effectivement.
Mais ouais.
Fait que voilà.
C'est ça. Hey là 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 là
tu voulais
là.
Parler de la musique. Habituellement, c'est moi qui parle de la musique. Puis là, tu vois, ça m'a pas nécessairement sauté aux oreilles. Qu'est-ce que tu voulais dire sur la musique?
Ah, la musique. La musique. Mais toutes les costumes sont magnifiques.
Ah, mais... Juste un petit fun fact. Si je vais au Comic-Con 3 jours cette année, la 3e journée, je vais faire Nadia. Ouais.
Ouais, si j'avais tes cheveux, je le ferais.
Voilà.
Mais c'est ça. Mais écoute, la musique, voyons, les images sont magnifiques. Le travail mm-hmm. des caméras oui. avec les miroirs, c'est super beau. Les costumes, c'est magnifique. La musique. Mais moi, c'est que le New Wave des années 80, c'est ma musique préférée. Tu sais, je veux dire, j'aime beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Mais ça, là, c'est comme la maison. Je sais pas comment l'expliquer, là. Fait que la première fois que Bilal et Gucci's Dead part, puis que c'est comme, ils ont retravaillé cette toune-là pour la réutiliser tout le long de la série. À chaque fois qu'elle part, là, j'ai les petits frissons, là, je me sens super bien. toute l'utilisation de la musique. Puis en plus, moi, je l'écoute avec des sous-titres anglophones, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, tu vois tout le temps les titres. Puis toutes les tunes ont tout le temps rapport avec ce qui est en train de se passer right now. Puis moi, Kraftwerk, toute la musique, justement, New Wave allemande de ces époques-là. Fait que quand tu s'en vas à Budapest, puisqu'on voit vraiment toute l'utilisation de cette iconographie-là, de cette espèce de... ce qu'on appelait à l'époque l'alternatif, là, mais whatever. En tout cas, ce qui n'est pas la même alternative qu'on entendait des années 2000, là, mais c'est l'alternative des années 80, le gothique, ce son-là du synthétiseur, ça vient vraiment me chercher, là. C'est vraiment ma musique préférée. Je pense qu'à un moment donné, elle a son bébé, puis je pense que c'est Personal Jesus qui part, là, tu sais, puis je suis comme, oh man, puis c'était une belle version en plus, là, c'était bon, puis le Depeche Mode en plus avec un des membres qui est décédé récemment, là, tu sais, fait que c'est comme, ah, c'est vraiment venu hit home, là, c'était vraiment bon, là. Mais il faut triper sur ça. Mais tu sais, comme moi, je pense que l'affaire que j'aime le plus de Nadia, c'est son look, là.
Ouais, ouais. Ouais, définitivement. Puis je pense justement, mais tu sais, je pense pas nécessairement justement qu'on a besoin d'aimer cette musique-là parce que ça participe à l'ancrage de l'époque. Tu sais, comme, moi, je trouve qu'ils ont été un peu abusifs sur le nombre de références pour nous expliquer qu'on était dans les années 80, là. Tu sais, mettons, là, il y avait l'affiche de Cat, il y avait une affiche de. Le truc de Sophie, là, le film. Là, après, il y avait celui qui était habillé comme le personnage en Taxi Driver. T'sais, c'était comme l'accumulation de... OK, on a compris qu'on était dans les années 80. Nous ne sommes pas des imbéciles.
Dans même temps, c'est comme quasiment des années 80 idéalisées.
Oui, exact. Voilà, parce que justement, les multiples références nous disent « Voici ce qu'étaient les années 80. » Puis, tu sais, elle va vraiment commenter... chaque chose. J'ai réécouté la scène où elle se rend compte qu'elle voyage dans le temps, puis elle commente l'affiche de Kat. Elle commente l'affiche de Sophie. Elle commente le gars avec qui est habillé comme dans Taxi Driver, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y avait un effet comique. En même temps, je suis comme, bon, OK. Mais la musique, justement, vient nous ancrer de façon un peu plus naturelle. Puis le look de Nadia est un peu intemporel, tu sais, dans le sens où on la voit habillée comme ça dans les années 80, puis t'es comme, ben, tu sais, elle détonne pas tant, malgré qu'eux, ils la voient pas comme ça, ça, j'ai bien compris, mais nous, en tant que spectateurs, on la voit.
Mais même son manteau, il fonctionne des années 40.
Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même assez cool. Fait que, tu sais, je pense que même pour les gens qui, mettons, aiment pas du tout le synthétiseur, parce que oui, il y a des gens qui aiment pas du tout le synthétiseur, qui aiment pas du tout, en fait, la musique des années 80, mais souvent, ce sont des gens qui savent pas réellement c'est quoi la musique des années 80.
Mais tu sais, moi, j'arrête pas de dire que j'aime la musique des années 80, mais tu sais, je parle pas de Motley Crue non plus.
Oui,
là.
C'est ça. Mais c'est parce que la musique des années 80, comme la musique des années 2020, c'est toutes sortes de musiques.
Mais c'est ça, ouais.
C'est
ça, je spécifie New Wave, là.
Ouais, c'est ça. Dans l'esprit collectif, ça peut être interprété différemment. Mais je trouve que, justement, mis à part le fait d'aller, justement, titiller des petites nostalgies qui font que toi, tu te sens chez toi quand tu entends cette musique-là, je pense que pour des gens qui n'ont pas nécessairement un lien d'affection avec cette musique-là, ça peut être juste comme, OK, je me sens dans ces années-là parce que la musique, elle est on point sur voici où on est en ce moment au niveau des années. Fait que ça, quand même, c'était bien un bon doigté, là.
Tout à fait. Fait que c'est pour ça que ça m'avait... Écoute, à chaque fois qu'il partait une toune ou presque, là, j'étais comme, ah oui, ah plus, plus, s'il vous plaît. Puis là, en plus, c'est drôle, là, parce que Stranger Things qui sort, là, je l'ai pas écouté la saison 4, là, mais je sais que...
La musique est très, très importante.
Ben oui, puis je sais que Running Up That Hill joue dans la... Je sais pas c'est quoi la scène, je sais pas rien, mais je sais que la toune est là. Puis c'est drôle parce que 3 semaines avant la sortie de Stranger Things 4, genre, j'étais comme, man, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Kate Bush. Puis là, j'ai comme écouté full de Kate Bush pendant le mois de mai, comme tout le temps du Kate Bush, puis là, je suis comme... OK, là, comme tout le monde vient de la découvrir, puis c'est comme, la musique des années 80, guys, c'est la meilleure musique! Mais bon, mais encore une fois, je parle pas de certains glam rock et whatever, là, mais bon, bref. S'il y avait une saison 3, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dedans?
Ben, je pense que je suis quand même assez down avec ton idée de genre Nadia qui tente de se projeter dans le futur. Et Alan aussi, j'aimerais voir plus de Alan. Fait que je trouve que ça pourrait bien boucler la boucle. Puis en même temps, comme je disais, j'attends pas la saison 3 avec impatience, mais je trouverais ça un peu triste qu'on finisse sur ça.
Ouais.
Mais en même temps, ça pourrait finir sur ça. Pour moi. Fait que je suis comme mitigée. Toi?
Ben, je suis très curieuse de voir où ils vont nous emmener. J'ai rien envie de voir la Nadia brillante qu'on connaît. Mm-hmm, mm-hmm. J'ai rien envie de voir, là, on verra probablement pas Ruth, mais quoique, je veux dire, on a vu sa mère tout le temps, puis sa mère était techniquement pas là, là. Fait que, ouais, je pense que j'aimerais ça voir plus de Ruth, j'aimerais ça voir plus de Allen. J'aimerais ça voir plus de Nadia intelligente, j'aimerais ça voir plus de Allen, j'aimerais ça qu'on aille plus loin dans la métaphore, soit dans la métaphore physique, soit dans la métaphore de gestion des traumas, puis de l'avancement d'une thérapie un peu auto faite par l'univers qui t'envoie des gens bêtes, là. Mm. Ou un beau mélange de tout ça. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Puis je pense que je vais la réécouter assurément une autre fois, pas tout de suite, là. Je vais la laisser macérer, mais je vais la réécouter, puis je pense que c'est le genre de série qu'à chaque écoute, je vais revoir des affaires que j'avais pas vues la première fois. Puis c'est ça. Fait que saison 2, je lui donne 5 étoiles sur le nombre d'étoiles que vous voulez. Je lui donne 80 années sur les années 80. merci beaucoup, Marca, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de ça. Je te souhaite une belle fin d'année. La prochaine fois qu'on devrait se reparler, ça devrait être terminé. Et oui, je salue encore bien bas notre amie Amélie qui se remet de... qui prend soin d'elle. Et là-dessus, je vous dis à dans 2 semaines!
Au revoir!